écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 1h en temps universel, 2h à Libreville.
Gali Bonin.
À la une de l'actualité, l'élection du nouveau pape célébrée dans le monde entier, Léon XIV est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre, révélant aux yeux du monde le premier pape américain de l'histoire. On vous emmènera au Gabon, où la nouvelle a été accueillie dans la joie. Réaction également chez les grands dirigeants mondiaux, Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont salué la nomination du souverain pontife. Des tensions toujours vives entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir mené des attaques de drones. En Suède, l'ambassade américaine tente de s'ingérer dans les politiques d'inclusion et de diversité. Des lettres ont été envoyées à des entreprises, mais aussi aux autorités municipales de la ville de Stockholm. Et en France, Marine Le Pen a-t-elle un problème Bardella? Depuis que la candidate d'extrême droite a été jugée inéligible, celui qui devait faire campagne pour le poste de Premier ministre se voit de plus en plus présidentiable. Quatre petits scrutins, c'est tout ce qu'il aura fallu aux cardinaux pour choisir leur nouveau pape. À 69 ans, Robert Francis Prévost devient Léon XIV, le premier pape américain de l'histoire. Il est né à Chicago. Au Gabon, pays où le christianisme est la religion dominante, les fidèles catholiques ont suivi avec un grand intérêt son élection. À Libreville, le reportage d'Yves-Laurent Goma.
Voici le jour que fit le Seigneur.
Dans les jardins de la cathédrale Sainte-Marie, ces membres de la chorale La Sainte Famille sont dans la joie. Ils viennent d'apprendre que la fumée est blanche au Vatican.
C'est vraiment la joie chez les catholiques. On est vraiment content d'avoir un nouveau pape. On l'attendait depuis. Les cloches viennent de sonner tout à l'heure là.
On veut déjà voir déjà sa photo apparaître parmi nous et que la joie continue à régner dans nos cœurs.
C'est la sœur Marie, les yeux arrivés sur son téléphone portable, qui a été la première à avoir l'information.
Une très bonne nouvelle. Le pape, le premier pape américain, c'est une grâce. On bénit le Seigneur. Gloire à Dieu.
La joie a envahi tout le monde.
Maintenant, nous sommes dans la joie totale de recevoir notre nouveau pape. Je pense Léon XIV.
Après l'émotion, les attentes.
Qu'il soit à la hauteur de celui qui est parti, hein, on l'a beaucoup apprécié à cause de son humilité. On espère que celui qui va arriver va penser aux pauvres qui sera aussi du côté des plus faibles.
C'est le chef de l'Église catholique, mais c'est avant tout un serviteur de ses frères.
Que le nouveau pape conduise le troupeau que Dieu lui a confié, comme le Jésus l'a recommandé à Saint-Pierre.
Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Habemus Papam, la traditionnelle formule en latin, a retenti sur la place Saint-Pierre à Rome, quelques secondes avant l'apparition de Léon XIV. Le souverain pontife a ensuite prononcé un discours appelant à la paix dans le monde. Dans la foulée, les réactions internationales se sont succédées et parmi les premières, celle de Donald Trump, le président américain. Les précisions de Daniel Valo.
Donald Trump s'est exprimé comme à son habitude sur le réseau Truth Social. C'est un tel honneur de réaliser qu'il est le premier pape américain. J'ai hâte de le rencontrer, ce sera un moment significatif, écrit le président américain. Félicitations également adressées par Emmanuel Macron. En ce 8 mai, écrit le président français, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. La paix, il en est question également pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui espère avec cette élection le soutien continu du Vatican dans les efforts de l'Ukraine pour parvenir à la paix. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas eu un mot, lui, pour l'Ukraine, mais il se dit certain que le dialogue entre la Russie et le Vatican se développera sur la base des valeurs chrétiennes qui nous unissent. Réaction également de Benjamin Netanyahou qui avait tardé à saluer la mémoire du pape François. Le premier ministre israélien déclare ce jeudi soir qu'il souhaite du succès au premier pape des États-Unis. À noter enfin cette réaction de Gustavo Petro, le président colombien. J'espère qu'il sera le grand leader des peuples migrants dans le monde et qu'il donnera du courage à nos frères migrants aujourd'hui humiliés aux États-Unis. Fin de citation.
Et le pape donnera sa première messe vendredi matin avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine. Pour suivre tous les développements, rendez-vous dans quelques heures sur notre antenne. RFI sera en édition spéciale à partir de 8h, heure de Paris. Les affrontements se poursuivent entre l'Inde et le Pakistan. Les États-Unis ont appelé les deux pays à une désescalade immédiate, même si le vice-président J.D. Vance a précisé que ce conflit n'était fondamentalement pas l'affaire de Washington. Islamabad et New Delhi s'accusent mutuellement d'avoir mené des attaques de drones. Le Pakistan affirme avoir intercepté 25 appareils de fabrication israélienne en provenance de l'Inde. Ces nouveaux échanges de tirs surviennent au lendemain de la journée la plus meurtrière en 20 ans. Mercredi, les tirs d'artillerie des deux côtés de la frontière ont fait au moins 48 morts. À Stockholm, l'ambassade des États-Unis fait pression pour que la capitale suédoise cesse d'œuvrer pour l'équité et la diversité. Une injonction a été envoyée par courrier à plusieurs entreprises et autorités locales. Parmi elles, le bureau d'urbanisme de la ville, qui n'a pas très bien reçu cette tentative d'ingérence. Le récit de notre correspondante à Stockholm, Ottilia Ferré.
Cette lettre demandant des comptes à Stockholm sur ses politiques d'inclusion et de lutte contre les discriminations a été mal reçue, notamment par Jan Valeskog, conseiller municipal à l'urbanisme de la ville.
C'était vraiment une surprise très bizarre. C'est vraiment inhabituel qu'une ambassade cherche à s'immiscer dans les politiques du pays concernant la manière dont on travaille avec la diversité et l'inclusion, qui sont des choses très importantes pour la municipalité de Stockholm. On est fiers de ces principes et personne ne peut venir nous dire d'y renoncer. C'est quasiment une lettre de menace envoyée indirectement par Trump, évidemment.
Les entreprises et autorités qui ne se conforment pas aux exigences américaines risquent de perdre des contrats. La lettre doit aussi être signée et retourner dans un délai de 10 jours ouvrables.
On ne compte absolument pas répondre ou avoir le moindre contact avec eux. C'est l'ambassade qui sera la plus touchée. Ça va être compliqué pour eux de ne pas avoir de contact avec la ville où ils sont. Franchement, je ne comprends pas comment ils réfléchissent.
Les politiques d'inclusion font partie de la loi que personne ne semble vouloir enfreindre à Stockholm au nom des États-Unis. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Après des semaines de négociations tendues entre Kiev et Washington, le Parlement ukrainien a ratifié jeudi l'accord sur les minerais. L'entente ouvre les portes des mines et des champs pétrogaziers ukrainiens aux compagnies américaines, en échange de quoi une nouvelle aide militaire de la part des États-Unis est envisageable. L'accord ne comprend toutefois aucune garantie de sécurité, une des principales demandes de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky salue toutefois un nouveau chapitre pour les relations entre les deux pays. À Berlin, fraîchement arrivé en poste, le gouvernement de Friedrich Merz promet un soutien continu à l'Ukraine. Le nouveau chancelier allemand a échangé avec le président Volodymyr Zelensky par téléphone jeudi soir. Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité que la Russie accepte un cessez-le-feu. Une demande soutenue par Donald Trump qui a appelé à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. En France, est-ce que Marine Le Pen commencerait à avoir un problème Bardella? Depuis que le numéro 2 du Rassemblement National s'est autoproclamé plan B en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, elle est sans cesse interpellée sur cette hypothèse. En marge des commémorations du 8 mai dans son fief d'Hénin-Beaumont, la chef des députés RN a encore dû rappeler qu'elle n'était pas hors course. Raphaël Delvolvé.
Croyez-moi, je suis là, et bien là, et plus combatif que jamais. L'adjectif est toujours le même depuis sa condamnation. Cette fois, Marine Le Pen répondait sur le récent sondage dans lequel elle semble moins bien placée que Jordan Bardella pour 2027. Ça ne me froisse pas, je trouve ça ridicule. Je ne disparais pas du fait d'une décision de justice, ajoute-t-elle. Comme il y a deux jours en réunion de groupe, elle ne cache pas son agacement au moment où son parti peine à retrouver l'équilibre de son binôme. Le Pen, future présidente, Bardella, futur premier ministre. Le président du parti n'y est d'ailleurs pas étranger. Il ressemble ces dernières semaines à un candidat en rodage. Il s'affiche à Rome, aux obsèques du pape François, prend position contre l'euthanasie dans la presse conservatrice, quand son mentor recommande la sobriété sur les sujets sociétaux, ou encore se vante devant des journalistes de sa popularité dans les enquêtes et du succès de son livre. Combien de temps cette situation de flottement peut-elle tenir? L'issue du procès en appel de Marine Le Pen, c'est à l'été 2026, à moins qu'entre-temps, une explication ait lieu entre les deux têtes du RN.
Les précisions de Raphaël Delvolvé. En foot, la finale de la Ligue Europa sera entièrement anglaise. Manchester United retrouvera Tottenham sur la pelouse du stade San Mamés à Bilbao. Ce sera le 21 mai. Les deux clubs anglais se sont qualifiés jeudi soir avec la victoire à domicile de Manchester sur l'Athletic Bilbao 4-1. De leur côté, les Londoniens ont éliminé les Norvégiens de Bodø/Glimt 2-0. C'est la deuxième finale anglo-anglaise du championnat, après celle gagnée par Chelsea contre Arsenal en 2019. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, consultez notre application mobile, Pure Radio ou encore le www.rfi.fr.